Votre soirée continue sur Bel RTL avec Anthony Martin et son émission confidentielle consacrée à Yannick Noah.
Les Crazy Birthday chez Medi Market, c'est jusqu'à moins 60% sur plus de 350 références en magasin et sur medi-market.be.
Medi Market, votre santé passe en premier. Bel RTL,
belle.
Vibrez ensemble.
Bel RTL, il est 18h. Journal, on retrouve Lisa Saint-Guilin. Bonsoir Lisa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à toutes et à tous. Une marée humaine a défilé à Bruxelles cet après-midi en soutien à Gaza. L'événement, organisé par des dizaines d'ONG, syndicats et associations, a rassemblé plus de 100 000 personnes. Au moins autant de personnes se sont réunies à Mons pour fêter le doudou. La journée du dimanche est la plus importante avec le combat d'Ilumson. Les associations de défense des animaux s'inquiètent à l'approche de l'été, période où les abandons explosent. En fin de journal, découverte de votre nouvelle série « Tout pour la lumière ». Le premier épisode sera diffusé ce soir en avant-première dans la foulée du RTL Info 19h. Mais avant de développer ces titres, les prévisions météo d'Émilie Dupuis.
Vous avez pu le constater, c'est effectivement un beau retour au calme aujourd'hui et ça va se poursuivre dans le courant de la nuit avec de larges éclaircies et parfois juste quelques nuages, des minima qui vont osciller entre 4 et 14 degrés. 4 degrés, c'est évidemment du côté de l'Ardenne et puis ensuite demain matin, vous allez vous réveiller sous le soleil avec juste quelques nuages cumuliformes qui vont se développer à l'intérieur des terres au fil de la journée, mais le temps restera évidemment sec, plein soleil du côté du littoral et des températures qui vont grimper jusqu'à 25 degrés dans le centre du pays.
Sans plus tarder, on prend la direction de notre capitale où une manifestation pro-Palestine a eu lieu durant toute l'après-midi. Il s'agit de la 10e grande action de solidarité avec le peuple palestinien organisée depuis le début de la guerre à Gaza. Nicolas Loïc, vous êtes sur place. La manifestation touche à sa fin et elle a rassemblé énormément de monde.
Un soutien d'une ampleur inédite, Lisa, dans les rues de Bruxelles cet après-midi pour la Palestine. 110 000 manifestants selon les organisateurs, 75 000 selon la police. C'est vrai que c'était une véritable déferlante rouge dans les rues de la capitale. À l'instar d'autres villes européennes, on parle de 150 000 personnes dans les rues de La Haye, aux Pays-Bas, cet après-midi. Chez nous, les gens venaient de tout le pays. Ils avaient tous les âges. On a vu beaucoup de personnes âgées. On a vu aussi énormément de femmes avec de jeunes enfants qui étaient bien conscients de ce qui se passait en Palestine, qui étaient sensibilisés. Aucun débordement à signaler pour l'instant à la place Jourdan où nous sommes, là où la manifestation est en train de se terminer. Un podium est installé pour garder une ambiance conviviale avec un peu de musique, beaucoup de joie, tout en n'oubliant pas le message du jour, Lisa, Free Palestine.
Merci beaucoup Nicolas Loïc pour toutes ces précisions. C'était l'effervescence à Mons aujourd'hui. Plus de 100 000 personnes se sont réunies au centre-ville pour la journée la plus importante du doudou, avec en point d'orgue le combat d'Ilumson. Retour sur ce moment riche en émotions avec quelques réactions recueillies par Arnaud Toussaint.
Même si c'était très 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 compliqué, on était bien positionnés avec tous les copains, beaucoup de mouvements de foule, aussi des chutes. On était un petit peu divisé, mais je pense que tout le monde s'est bien amusé, oui, tout à fait.
Mais c'est toujours quelque chose de très sportif, la corde fait mal, et effectivement, quand on a des trophées, on est très content, parce que ça fait mal, mais on sait pourquoi on y va. Moi, j'ai eu une vessie, j'ai eu 5 rubans et j'ai une clochette de chinchin, et donc je suis très content de mon combat.
Ça, c'est une tradition, et puis après, ça peut porter bonheur, si on y croit, et voilà, on adore ça, et j'initie mes enfants maintenant, pour la première fois cette année.
Au troisième jour de la guerre, les bombardements s'intensifient entre Israël et l'Iran. L'armée israélienne a frappé le ministère de la Défense et le siège de la police à Téhéran, ainsi que des installations pétrolières. L'Iran, de son côté, a lancé un nouveau barrage de missiles sur Israël, tuant au moins 10 personnes. L'armée israélienne appelle la population à se confiner dans des abris et à y rester jusqu'à nouvel ordre. Le bilan s'alourdit, au moins 10 morts en Israël. En Iran, plus de 120 personnes sont mortes dans les bombardements. Et Donald Trump a réagi au conflit et a annoncé une possible implication des États-Unis, précisant que ce n'est pas le cas pour l'instant. Le président américain se dit par ailleurs ouvert à ce que son homologue russe, Vladimir Poutine, joue un rôle de médiateur entre les deux pays. Retour chez nous avec ce triste chiffre. Chaque année, 60 000 chiens et chats sont recueillis par le refuge, soit 165 par jour. À l'approche de l'été, les associations de défense des animaux s'inquiètent, mais elles remarquent tout de même que les abandons sauvages dans les bois ou au bord des routes sont de moins en moins fréquents. Ingrid Swinen est coordinatrice de la Société Royale Protectrice des Animaux de Liège. Elle est au micro de Samuel Ledoux.
Il est difficile pour un maître d'aller l'abandonner quelque part, puisque aussitôt le chien est recueilli dans un refuge ou chez un vétérinaire, la puce sera lue, donc sa carte d'identité, et avec les coordonnées du propriétaire qu'on ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver, et évidemment à ce moment-là, à lui faire un grand doigt.
Découverte à présent de votre nouvelle série « Tout pour la lumière » diffusée chaque jour en avant-première sur RTL TV et RTL Play à partir de ce soir. C'est l'histoire d'un studio d'artistes qui accueille des jeunes talents avec une promesse, vous faire chanter et danser. Au casting, on retrouve Marie-Alexandre, actrice belge, dans le rôle d'Élise. Elle nous décrit son personnage.
C'est l'élève timide du studio, c'est une nouvelle élève. Elle a déjà sa sœur et son frère qui sont au studio, mais elle vient d'arriver, elle a des tocs, une sorte de phobie sociale, ce qui va pas vraiment l'aider à se sentir à l'aise et à s'intégrer. Mais elle a beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à explorer. C'est mon rêve de petite fille, je voulais faire Glee depuis toute petite. J'avais les sacs High School Musical, donc en fait j'ai manifesté tout ça.
Premier épisode à découvrir ce soir donc dans la foulée du RTL Info 19h. Un mot de sport pour finir et cette déception pour Zizou Bergs après un beau parcours. Il s'est incliné en finale du tournoi de Rosemallon devant le Canadien Gabriel Diallo 7-5, 7-6. Chez les dames, Elise Mertens remporte la finale du tournoi. Elle s'est imposée en 2-7, 6-3, 7-6 contre la Roumaine Elena Gabriela Ruse. La rencontre a duré 1h et 57 minutes. Formule 1 pour finir avec cette victoire de Ferrari aux 24 heures du Mans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche 15 juin. La soirée continue sur Bel RTL avec Confidentiel d'Anthony Martin.
Bel RTL.
Confidentiel.
Confidentiel.
Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans Confidentiel. Chaque samedi, on prend le temps de retracer et de comprendre les parcours hors du commun. Cette semaine, nous allons marcher dans les pas de celui qui fut pendant longtemps une des personnalités préférées des Français. Il fait partie de la famille, c'est Yannick Noah. Champion, entraîneur, chanteur, grande gueule, homme de cœur, père de 6 enfants, aujourd'hui chef de tribu au Cameroun, comme le furent son père et son grand-père, Yannick Noah a déjà vécu plusieurs vies. Mais d'où lui vient ce goût du défi permanent? Où a-t-il forgé son mental d'acier? Quels sont les secrets de sa force tranquille et de sa vie en liberté? Yannick Noah, un héros français, bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Nous sommes en 1971 à Yaoundé, la capitale du Cameroun. 4 tennismen professionnels, 3 américains et un hollandais, arrivent en ville dans le cadre d'une tournée d'exhibition. Parmi eux, le champion Arthur Ashe. Il est le 5e joueur mondial, le seul afro-américain à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. Arthur Ashe est le héros de milliers de gamins. Et c'est le cas pour le jeune Yannick Noah. C'est son idole. Et son idole arrive ici à Yaoundé. Arthur Ashe est né en Virginie, dans le sud des États-Unis, dans les années 40, et il n'a pas eu la vie facile. Aux yeux de Yannick, c'est plus qu'un sportif, car dans ces années-là, les États du Sud étaient ouvertement racistes et vivaient sous les lois d'apartheid qui séparent les Noirs et les Blancs. En Virginie, il leur était même interdit d'entrer sur un court. Arthur Ashe voulait jouer au tennis. Alors il a quitté l'état de Virginie, il s'est battu comme un diable, il a affronté tout seul les préjugés de l'Amérique d'après-guerre. Et il a gagné. Il est devenu un sportif de haut niveau et une figure de la lutte pour les droits civiques. Mais Arthur Ashe ne prêche pas et ne fait pas de politique. Il joue au tennis et il s'est battu comme un diable et c'est par sa réussite sportive qu'il galvanise les foules. Pour Yannick Noah, Arthur Ashe est un exemple à suivre. Il est la preuve que tout est possible et que l'on peut y arriver. Yannick a 11 ans quand l'avion d'Arthur Ashe se pose à Yaoundé. Il est surexcité, il va rencontrer cet homme qui le fait rêver. Car Yannick joue au tennis, il est inscrit dans un club avec ses parents et il adore ça. Il joue tous les jours. Et il est prévu que Arthur Ashe échange quelques balles avec les jeunes du club. Et tout se passe comme prévu. Yannick rencontre donc son idole pendant une dizaine de minutes. Il tape la balle. Alors c'est court, 10 minutes, mais c'est suffisant pour Arthur Ashe qui détecte instantanément le talent du garçon qui lui fait face.
Et quand arrive la séance d'autographe, le tennisman ne signe pas pour Yannick sur un petit bout de papier. Non, non, il offre sa raquette à ce petit Yannick qui l'attend impressionné sur le terrain. Un cadeau incroyable, un signe du destin. Yannick Noah rentre chez lui avec la raquette d'Arthur Ashe. Il la garde dans ses bras toute la soirée. Il dort avec. Et au milieu de la nuit, il regarde le poster d'Arthur Ashe qui est au-dessus de son lit et il lui vient l'idée de le faire signer par le champion avant qu'il ne quitte la ville. Yannick est comme une pile électrique. Il réveille son père, Zachary, et lui demande de l'emmener à l'aéroport, car il le sait, Arthur Ashe reprend son avion et quitte le Cameroun ce matin même. C'est donc sa dernière chance de le revoir. Zachary sent que c'est vital, il se lève et emmène son fils à l'aéroport. Ils arrivent à 6h du matin, l'avion ne décolle qu'à 8h. Yannick, le poster en main, ne tient pas en place. Puis arrive une voiture. Arthur Ashe en descend, Yannick se précipite et le champion le reconnaît. Il en rigole d'ailleurs. « Mais t'es encore là, toi ?» Et il écrit sur le poster « Pour Yannick, j'espère qu'on se retrouvera un jour à Roland-Garros. » Cette histoire ressemble à un conte de fées, on en reparlera d'ailleurs. Car oui, Yannick Noah et Arthur Ashe se retrouveront sur le terrain et en dehors quelques années plus tard. Et Arthur Ashe deviendra le mentor, le père spirituel de Noah. Mais n'allons pas trop vite, car le premier chapitre de la vie de Yannick Noah commence loin de Yaoundé, en France, dans les Ardennes. Merci d'être à l'écoute de Confidentiel. On se retrouve dans un instant, on est ensemble jusqu'à 14h30. A tout de suite.
Confidentiel, Yannick Noah, sur RTL.
Ah, Ellie se connecte.
Hello tout le monde, je fais la réunion dans ma nouvelle ID 4, ok?
Ok, mais on te voit, t'es sur le parking?
Ouais, et qu'est-ce que t'en penses? Les jantes noires et le toit panoramique, ça en jette, hein?
Oui, mais tu nous rejoins ou...
Non, 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 j'ai mis les sièges massants, allez-y, commencez.
Ah bah attends, j'arrive.
Quel bonheur la Volkswagen ID 4 dans sa nouvelle finition Business Sport, avec jusqu'à 543 km d'autonomie. Profitez de l'offre de lancement à partir de 349 € par mois hors TVA en renting financier pour les professionnels. Info sur volkswagen.be.
Écoutez Bel RTL Happy, la web radio qui vous fait du bien, en téléchargeant l'application Bel RTL sur votre smartphone.
Yannick Noah, avec Anthony Martin.
Nous sommes en 1957, dans l'est de la France, dans la ville de Sedan. L'équipe de football locale vient de recruter un nouveau joueur, formé à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris, le défenseur Zachary Noah, un garçon de 24 ans qui vient du Cameroun. Ce jour de 1957, Marcel Perrier, le correspondant local du journal L'Équipe, a rendez-vous avec Zachary pour une interview. Et il ne vient pas seul. Il vient avec sa fille, Marie-Claire, qui a 24 ans et qui est une grande supportrice de l'équipe ardennaise. Et en marge de l'interview, c'est le coup de foudre entre Zachary et Marie-Claire. Ils ne se quitteront plus. Ils s'aiment, mais à la fin des années 50, les couples mixtes ne sont pas courants. C'est un amour interdit et ils choisissent de rester très discrets, d'autant que des deux côtés des familles, chez les Noah et chez les Perrier, on n'est pas très à l'aise avec cette relation. Alors Marie-Claire et Zachary Noah se marient en cachette dans une auberge des Ardennes et ils ne disent rien à personne. Ils donnent naissance à deux filles, Isabelle et Nathalie, et à un garçon, Yannick, qui vient au monde le 18 mai 1960. L'arrivée de ce petit gars qui perpétuera le nom de famille et qui plus tard sera la réincarnation du grand-père apaise les esprits et les choses changent. Marie-Claire est enfin acceptée par le clan Noah. En 1961, l'équipe de foot de Sedan gagne la Coupe de France. La notoriété de Zachary s'envole. Mais deux ans plus tard, fin de carrière.
Le père de famille se blesse au cours d'un match, fracture du tibia et du bassin, il doit dire adieu au football. Marie-Claire et Zachary décident alors de quitter la France pour s'installer au Cameroun, dans le village natal de Zachary. Le père de Yannick vit ça comme un échec. Marie-Claire est une femme de caractère, c'est une aventurière, et pour elle, partir en Afrique, eh bien c'est une nouvelle vie qu'elle aborde avec enthousiasme. C'est elle qui pousse la famille à relever le défi. Le village des Noahs se nomme Etoudi. En 1964, lorsque la famille de Yannick s'y installe, ce n'est pas encore un quartier de la capitale, Yaoundé. Non, ce n'est qu'un petit village en bordure de brousse. Sur place, Zachary trouve un poste d'employé de banque. Marie-Claire, elle, est professeure de français. La vie de Yannick au Cameroun est rudimentaire. L'électricité est capricieuse, l'eau courante n'existe pas. Il faut aller chercher l'eau à la fontaine. Les souvenirs de sa mère Marie-Claire en 1993 sur RTL.
Un enfant absolument comme les autres, un petit bonhomme avec ses parents et ses deux petites sœurs, avec une vie, disons, entre guillemets, à l'africaine, c'est-à-dire une maison, le jardin et la vie très très libre. Donc il a eu une enfance très... je pense que l'essentiel de la définition, c'est la liberté qu'ont les petits-enfants en Afrique. Il a eu l'école de la ville comme tous les enfants, école africaine, puis école française. Dans l'ensemble, c'était un enfant qui travaillait bien à l'école, petit. Il était sérieux, des cahiers très bien tenus, très consciencieux.
Yannick aime sa vie au Cameroun. L'école, les copains, il découvre la musique de Bob Marley, un dieu pour les gamins du coin. Et il se met à jouer au tennis, un peu par hasard, avec ses parents qui sont fous de sport et qui s'inscrivent dans le club de la ville. C'est comme ça que Yannick tape ses premières balles en accompagnant ses parents. Et il adore ça. Il devient accro, il joue tous les jours, parfois jusqu'à la nuit tombée. Arrive l'année 71, marquée par la rencontre avec le champion Arthur Ashe, je vous le racontais en tout début de récit. Et c'est vraiment un moment de bascule pour Yannick Noah, alors âgé de 10 ans. Un moment clé qu'il évoquait sur RTL en 1993.
C'était le début de ma relation, de mon histoire avec Arthur Ashe.
Oui.
Parce que il m'a inspiré en tant que joueur en me signant cet autographe qui était au-dessus de mon lit sur un poster. Il disait, j'espère qu'un jour je te verrai à Roland Garros. Et puis j'étais fan quoi. C'était le début de mon rêve. Là j'ai commencé à rêver. Avant je me disais, oh, si je pouvais être premier joueur du club ce serait bien. Mais là tout d'un coup le fait qu'Arthur Ashe d'abord me donne cette attention, et ça j'ai jamais oublié, je pense que je l'oublierai jamais, j'étais ce petit fan qui vient voir ce grand champion professionnel, cette idole, et j'étais comme ça dans le creux de sa main, et il pouvait très bien souffler, je me serais écrasé par terre. Mais non, il m'a parlé, il m'a donné une raquette, il m'a signé un autographe. Beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, et j'ai jamais oublié ça, parce que c'était mon rêve qui se réalisait et qui se matérialisait, et je me suis dit, bon, si Arthur Ashe peut me donner ça, il faut que je continue, quoi. Si lui pense que je suis pas mauvais, c'est qu'il faut que j'y aille, quoi. Et donc, du coup, je me suis emballé là-dedans, et puis j'ai pu lâcher.
Ce que Yannick Noah ne sait pas à l'époque, c'est que Arthur Ashe va concrètement lui donner un coup de pouce. Le tennisman appelle le président de la Fédération Française de Tennis, Philippe Châtrier, qui est un de ses copains, et il lui parle de Yannick. Il lui dit qu'au Cameroun, il a rencontré ce gamin prometteur et qu'il devrait l'accueillir pour le former. Philippe Châtrier propose donc à Zachary et Marie-Claire de laisser leur fils venir en France, au lycée sport-études de Nice. Et il ajoute « Je lui obtiendrai une bourse ». C'est ainsi qu'en 1972, à 12 ans, Yannick Noah quitte le Cameroun pour la France dans le but de devenir tennisman professionnel. Nous voilà en 1972. Yannick Noah prend l'avion, seul, de Yaoundé à Paris, puis Paris-Marseille en bus, et enfin un train pour Nice. Un sacré voyage. Il faut imaginer ce champion en herbe de 12 ans qui arrive du Cameroun avec un petit plan dessiné sur un bout de papier pour lui indiquer le chemin du pensionnat. Il est épuisé par le voyage, il traîne sa lourde valise, il s'arrête souvent pour pleurer.
En fait, moi, j'ai une éducation, je suis parti de chez moi, j'étais très jeune, donc j'ai été livré à moi-même très tôt. Je suis parti de chez moi, j'avais 11 ans, et mon père m'a dit, écoute, je te fais confiance, t'es un petit bonhomme, vas-y. Maman était un peu plus réservée parce que bon, c'est le côté maternel, elle aurait voulu me garder un peu plus longtemps à la maison. Mais ils m'ont laissé, ils m'ont fait confiance. Et puis de temps en temps, je passais un coup de fil, j'écrivais des lettres. Mais bon, j'étais à 6000 km de là. Mais j'avais mon avenir entre mes mains, quoi. J'avais 11 ans et puis j'étais ce petit bonhomme organisé avec 100 francs par mois, bien organisé, son petit porte-monnaie, avec son carnet de notes. Alors c'est moi qui signais mon carnet de notes. Alors le premier jour, quand on signe son carnet de notes, on se signe un mot d'excuse pour pouvoir sécher un cours de maths. Et puis après, on s'aperçoit que le cours de maths, en fait, c'est pas pour papa et pour maman qu'on y va, mais c'est pour soi. Donc j'étais tout de suite en face de mes responsabilités. Donc un petit bonhomme très libre.
Très libre, mais très seul. Les trois premiers mois sont très difficiles. Yannick Noah subit tout ce qu'il déteste. Lui qui vivait libre comme l'air dans son village au Cameroun doit se plier à un monde qui ressemble à une prison. Les dortoirs, la cantine, les horaires, la discipline, le surveillant qui les réveille chaque matin en hurlant, le premier hiver, froid, gris et triste. Il est humilié en plus, bizuté, victime de racisme. Ils ne sont que deux enfants noirs dans la pension à Nice. Yannick est le plus jeune. Il le racontait sur RTL en 1993.
Bon, j'étais Bamboula, moi. J'étais le petit Bamboula. Lui, c'était le môme. Le petit qui savait, qui avait du rythme, alors il jouait du tam-tam, alors on se retrouvait tous les deux dans l'étude et puis on chantait tous les deux. Enfin, il y avait cette espèce de fraternité entre nous deux, quoi. On était les deux Africains de la pension, quoi.
À la fin du premier trimestre, arrivent les vacances de Noël. Yannick Noah retourne au Cameroun. Ses parents sentent que ça ne va pas, que cette vie ne lui convient pas. Et ils lui donnent le choix. Si c'est trop dur, si tu n'aimes pas cette vie, n'y retourne pas. C'est toi qui décides. Au fond de lui, Yannick ne veut pas retourner à Nice. Une petite voix lui dit de rester au village avec sa famille et ses amis. Mais sa détermination l'emporte. Il n'abandonnera pas. Et il repart. Mais par contre, il a décidé de ne plus se laisser faire. Le manque affectif et l'extrême solitude vont se transformer en force. Il va se bagarrer et il va devenir un champion. Son guide, Arthur H., ne s'est pas trompé. Yannick a en lui le talent des grands joueurs. Et il travaille dur. À 13 ans, il intègre l'équipe de France des minimes. Un an plus tard, en 74, il devient cadet. Et en 75, il entre dans l'équipe de France junior. Il décide alors d'arrêter les études pour ne se consacrer qu'au tennis. 3 ans plus tard, en 1978, Yannick Noah entre dans le circuit professionnel. Ses points forts, le service, ses coups droits, ses lifts et son mental d'acier, son esprit conquérant. Et il s'envole. Il gagne ses deux premiers tournois à Manille et à Calcutta. Il est 42e joueur mondial et numéro 2 français. Désormais, il faut compter avec Yannick Noah. Et en cette même année, 1978, Yannick reçoit un coup de téléphone incroyable. C'est Arthur H. qui l'appelle et lui fait une proposition. Pourquoi ne serait-il pas son partenaire pour jouer en double au prestigieux tournoi de Wimbledon ? Alors bien sûr, Yannick accepte. Les deux hommes se retrouvent donc sur la pelouse du stade le plus conservateur, le plus aristocratique du monde. Le match du premier tour les oppose à des Sud-Africains. La symbolique est forte et ils gagnent contre ces représentants du pays de l'apartheid. H et Noah s'inclinent au deuxième tour face à des Américains, mais Yannick est aux anges. Il a joué aux côtés de l'homme qu'il admire le plus, voilà qui lui donne des ailes pour la suite. Yannick Noah enchaîne les victoires. Il gagne des tournois à Nancy, Madrid, Bordeaux et devient champion de France. Et puis arrive l'objectif suprême, Roland-Garros. En 1980, il parvient en 8e de finale. En 1981 et 82, il se hisse en quart de finale. Et en 1983, Yannick Noah est sur le point de réaliser son rêve le plus fou. Il va décrocher la plus belle des victoires.
Changer de terre ou de train. passerai ton nom.
Chez Peugeot, il y a maintenant des conditions indomptables, comme une Peugeot 208 à partir de 15 900 euros. Ne laissez pas s'échapper les conditions indomptables chez Peugeot. Offre sous condition, prime de recyclage conditionnelle déduite, plus d'infos sur Peugeot.be.
Peugeot.
Sur Bel RTL, découvrez Stiletto, Amour Cyclone.
Dis-moi où on va quand on touche le fond. Est-ce qu'on peut encore creuser un peu plus profond, toi et moi dans l'octogone. Y'a pas d'amour sans bleu sur le cœur. Amour cyclone, comme un boomerang qui revient me casser les dents. Je revenais toujours comme un chien, le regard brûlant, plus rien ne comptait. Personne, t'étais l'incendie, mon feu destructeur. Amour cyclone. Amour cyclone.
Confidentiel, Yannick Noah. Avec Anthony Martin.
Nous sommes le 5 juin 1983 dans la propriété que Yannick Noah s'est achetée à une cinquantaine de kilomètres au sud de Paris, à Nainville-les-Roches. Il est 9h, Yannick dort encore. Ce qui est étonnant, depuis le début du tournoi de Roland-Garros, il dort plutôt mal, à peine 4 ou 5 heures par nuit. Mais le jour de la finale, sans doute le jour le plus important de sa vie, en tout cas celui qu'il attend depuis 15 ans, il dort comme un bébé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Depuis 6 heures du matin, son père, Zachary, fait les 100 pas dans le salon au rez-de-chaussée. Il craque, il monte à l'étage et entre dans la chambre de son fils et le réveille. « Allez debout, Yannick, c'est le grand jour !» Yannick se lève, il a l'air tranquille. Peut-être qu'intérieurement il boue, mais ça ne se voit pas. Il est calme. Il prépare des œufs, du café, il avale des pastilles de sel et des vitamines. Il met un disque de Bob Marley qu'il écoute en souriant. 10h, Yannick monte dans sa voiture, une Mercedes blanche. Son père l'accompagne jusqu'à la porte. Il le rejoindra plus tard, à Roland-Garros. Avant que Yannick démarre, il lui dit juste « Plus qu'un match, Yann. Un seul. Bats-toi. » Yannick sourit. Il se sent fort, sûr de lui. Il va gagner, il en est certain. 11h, Yannick arrive au Racing Club de Paris. Il retrouve son entraîneur, Patrice Agelauer, qui lui fait travailler ses services pendant une trentaine de minutes. Ça ne va pas. Les balles ne partent pas comme il veut. Et il s'énerve un peu. 11h30, une douche pour se calmer, puis pause déjeuner. Steak haché, riz, fromage et fruits. 12h30, Yannick Noah quitte le restaurant du Racing et se rend boulevard Suchet, dans le 16e arrondissement de Paris, juste à côté de Roland-Garros, chez son copain David Fitoussi qui lui prête une chambre. Il se détend pendant un peu plus d'une heure, il lit la presse, le journal L'Équipe titre « 50 millions de Noah ». Yannick reste calme. il s'efforce de ne pas trop penser à la victoire. 14h, Yannick arrive au vestiaire de Roland-Garros. Il range ses raquettes, les numérote selon leur cordage, plus ou moins tendu, et il choisit une tenue. Au départ, il voulait être en rouge. Et au dernier moment, il change d'avis. Il portera une tenue claire, jaune pâle et blanche. Il ne sait pas pourquoi, à cause de la chaleur peut-être. Il décide de porter des chaussures ayant déjà servi, pas des neuves. Et il va aux toilettes, peut-être 10 fois. 14h50, il quitte les vestiaires et se rend dans le couloir qui mène au terrain. Son adversaire, Mats Wilander, est là aussi. Mais les deux hommes ne se regardent pas. Yannick entend la voix du juge-arbitre qui les appelle. C'est parti. Maintenant, il faut gagner. 15h. Début du match. Devant 15 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs, Yannick Noah domine le premier set qu'il liquide dans 36 minutes. 6-2. Deuxième set. Il fait chaud. Très chaud. Les jambes commencent à tirer. Il fatigue et descend des bouteilles d'eau. Mats Wilander lui aussi fatigue. Les deux hommes jouent plus long. À chaque erreur de Wilander, Yannick hurle comme un beau diable. C'est pas son genre, mais c'est plus fort que lui. Et il gagne le deuxième set. 7-5. Il commence à y croire. Troisième set. Yannick joue de façon plus décontractée. Il ne veut pas se mettre la pression. Il s'économise, garde des forces pour le dernier jeu. Mais le set est serré. 6-5 pour Noah. Puis Wilander remonte. 6-6. On joue le tie-break. Yannick domine. Il arrive à 5-2. Plus que 2 points et c'est gagné. Et il en marque un. 6-2. Première balle de match. Mats Wilander marque le point. 6-3. Deuxième balle de match. Yannick Noah serre. Wilander renvoie. Trop fort. Yannick le voit tout de suite. Il suit la balle des yeux, comme un film au ralenti. Il se tourne, regarde la balle. Il ne veut rien rater. Il veut savourer ce moment qu'il attend depuis qu'il est môme. Et la balle de son adversaire dépasse la ligne. Faute. Le public se lève comme un seul homme. Yannick, lui, tombe à genoux. Il vient de remporter le tournoi de Roland-Garros. La suite, on a tous l'image en tête. Zachary Noah saute sur le court, Yannick se jette dans ses bras et la seule chose qu'il pense à dire, c'est « Papa, on a gagné ».
Je suis très content, ça a été très dur. J'ai du mal à y croire, là. J'ai du mal à réaliser, j'ai besoin de reprendre un peu mes esprits.
Chaque fois que je revois ces images, ça me fait la même émotion. Voilà, c'est tout de suite la chair de poule, les larmes aux yeux. Voilà, c'était mon moment de... C'est certainement un des plus jolis moments de ma vie.
Ce 5 juin 1983, à 23 ans, Yannick Noah entre dans l'histoire du tennis français. Il rejoint la tribune. Autour de lui, la foule est en liesse. Il est sur un nuage. Un homme arrive et lui donne la coupe. C'est Marcel Bernard, le dernier Français à avoir gagné Roland-Garros en 1946. Et Yannick Noah, le fêtard, ne célèbre pas sa victoire qu'avec sa famille et le public du cours central de Roland-Garros. Souvenir de son entraîneur, Patrice Agelhauer.
Au moment où je quitte Roland-Garros, je me retrouve dans le parking pour prendre ma voiture. Qui je vois ? Yannick Noah, qui était là avec les personnes de l'entretien. Les personnes de l'entretien qui étaient les gens avec qui Yannick avait quasiment grandi, parce que Yannick avait logé ici quand il avait 17, 18 ans. Et là, il y avait Mabrouk qui était le responsable des vestiaires, et tous ces gars-là, Yannick avait récupéré une bouteille de champagne, et au milieu du parking, avec tous ces gars-là, ils sablaient le champagne, et ils étaient tous, mais tellement heureux.
Dans un instant sur RTL, les infos de ce samedi 14h, puis on se retrouvera pour la suite de ce confidentiel consacré à Yannick Noah.
Confidentiel revient dans un instant sur Bell RTL. Et maintenant, place à TUI. Profitez des meilleurs last minute pour un budget de vacances maîtrisé, comme 10 jours à moins de 699€ ou 8 jours à moins de 499€ par personne. Réservez sur TUI.be, dans l'appli TUI ou en agence. TUI, live happy.
Bell RTL vous régale.
Venez vivre une journée exceptionnelle en famille. On vous invite au domaine du Champ d'Éole, le plus grand vignoble familial de Belgique.
Visite guidée exclusive.
Repas raffinés.
Et moments privilégiés avec l'équipe de Bell RTL.
Entre vignobles,
gastronomie
et soleil,
tout est réuni pour vivre une parenthèse unique, pleine de saveurs
et de bonne humeur.
Pour tenter de gagner vos invitations au premier événement Bell RTL vous régale sous le soleil, écoutez Bell RTL à partir de lundi.
Toute la journée sur Bel RTL, la musique, c'est ça.
Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, tu sais. Une histoire ancrée dans les âges. Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change, ne change.
Confidentiel, Yannick Noah, avec Anthony Martin.
Le soir de sa victoire à Roland-Garros, Yannick Noah a fait une fête monumentale. Une soirée de dingue dans sa maison de Nainville-les-Roches. Tous les copains sont là, il y a même des gens qu'il ne connaît pas. Le groupe Téléphone donne un concert dans le jardin. Ils sont 50 dans la piscine. L'alcool coule à flot, ça chante, ça danse. Yannick célèbre comme il faut son jour de gloire. Et la suite alors ? Eh bien, ça peut paraître curieux, mais l'après Roland-Garros n'a pas été tout rose pour Yannick Noah. Le héros se relève seul. Yannick se sent vidé, physiquement et mentalement.
Moi, j'ai eu un choc énorme au moment de gagner Roland-Garros. Pour moi, Roland-Garros et toute ma vie, c'était synonyme de bonheur. Je gagnais Roland-Garros, j'avais la gloire, et si j'avais la gloire, j'allais être heureux. Et si je gagnais donc ce tournoi qui pour moi était le plus grand tournoi du monde, ben c'était fini, j'étais heureux toute ma vie. Et donc à partir de ce moment-là, je voulais continuer à être le numéro un. Mais la réaction que j'ai eue, animale que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'ai détesté tout ce qui est arrivé après. Parce que c'était, je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'avait aucune importance, que ouais, j'avais plus d'argent, que j'avais la gloire, mais que j'avais des choses à côté qui allaient complètement à l'encontre de mon équilibre et de mon bonheur. Donc je suis parti parce que je pouvais plus vivre. J'étais malheureux dans la peau d'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. Ça me convenait pas. J'avais laissé derrière des choses, de côté des choses qui étaient plus importantes. Je voulais passer tout d'un coup plus de moments avec mes amis. Je voulais passer plus de moments avec mes parents. Tout d'un coup, j'ai réalisé que la vie, c'était pas de gagner, d'être connu et de gagner du fric, quoi.
C'est ça.
Donc je me suis désintéressé complètement. J'ai continué à jouer parce que j'avais un amour pour le fait de taper la balle, de jouer, le public, partager des instants. Mais du jour où j'ai gagné Roland-Garros, j'étais plus du tout le même joueur.
À 23 ans, il plonge dans la dépression. Une dépression sévère. Le soir, ivre, seul, il se balade dans Paris. Il va sur les quais, regarde la Seine et se demande s'il ne ferait pas mieux de se foutre en l'air. Sauter. Là, maintenant, dans l'eau sombre et glacée. C'est peut-être la solution. Derrière cet être solaire qui transmet une énergie si positive, il y a donc une zone d'ombre, un mal-être, une fragilité. Et que faire après ce trophée gagné à Roland-Garros ? Comment rebondir ? Yannick Noah ne voit pas de psy. Il se laisse couler et c'est une de ses amies qui ouvre une porte de sortie et qui lui souffle une solution. Elle lui dit de quitter la France, d'oublier tout ça et d'aller loin, d'aller vivre à New York. Nous sommes le 6 décembre 1983, 6 mois après la victoire de Yannick Noah au tournoi de Roland-Garros. Le tennisman donne une conférence de presse pour annoncer son départ aux États-Unis. Le grand Yannick, le champion, le vainqueur, met sa tête dans les mains et pleure. Il sanglote sous les flashs qui crépitent. Il se reprend, renifle comme un gosse et parle.
La vie que j'ai en ce moment m'intéresse pas. C'est pas vraiment ce que je cherche dans ma vie. Et il se passe pas grand-chose. Et ce que je voudrais, c'est essayer d'aller ailleurs. Je veux dire, j'ai choisi New York. Pas tellement parce que j'adore New York, pas tellement parce que j'ai des amis. Je veux dire, mes amis sont ici, ma maison, elle est ici. Mais simplement parce que j'ai envie de changer un peu d'air, je dirais, de pouvoir être un peu tranquille pour les objectifs que je me suis fixés, qui sont de jouer le mieux possible et d'être bien, pas trop flippé. Et je pense que aller plus loin pour moi maintenant, c'est voir ailleurs ce qui se passe. Je cherche en allant à New York à avoir un espèce de déclic.
À New York, Yannick Noah retrouve le sourire et sa petite amie de l'époque. Une mannequin, ex-Miss Suède, Cecilia Rhodes, qu'il épouse et avec qui il a ses deux premiers enfants. Joachim, en 1985, aujourd'hui basketteur retraité de la NBA, et Yelena, en 1986. Avec Cecilia, il réalise donc un autre de ses rêves, fonder une famille. Il revit. Et New York, il adore. Il aime le côté insulaire de Manhattan. Il aime cette ville tout en hauteur, où les gens s'entassent et sont bien obligés de se supporter, de s'accepter tels qu'ils sont. Et les gens sont comme lui à New York. Ils viennent de partout, de tous les continents. Ils sont tous différents, mais tous ensemble. Yannick se lance aussi dans les affaires. Il ouvre un restaurant, le Guignols. Autant dire qu'il s'éloigne peu à peu de la planète tennis. Il reste tout de même quelques années de plus dans le circuit, mais il n'a plus la niaque. Il enchaîne les matchs sans trop d'appétit. Il gagne parfois, suffisamment pour se hisser à la troisième place mondiale en 1986, mais il n'a plus le goût à ça. Il le sent en 1990, quand il remporte le tournoi de Sydney. Yannick Noah gagne, et ça ne lui fait absolument rien. Il ne ressent aucune joie. Quand on soulève un trophée et qu'on ne ressent plus ce bonheur intense qui emplit l'âme et le corps, cette joie d'être acclamé en héros, ça veut dire que c'est fini. Et à Sydney, pour Yannick, c'est fini. Nous sommes donc en 1990 et Yannick Noah n'est plus tennisman professionnel. Sa décision est prise. Il l'officialise un an plus tard, après son dernier tournoi à Hambourg, et cette retraite sonne comme un soulagement. L'ancien champion le confiait en 1997 dans l'émission Fréquence Star sur M6.
En fait, la surprise, c'est que c'était très agréable. J'avais toujours eu appréhendé ce moment, tu vois, où tout d'un coup, est-ce que j'allais pas être trop nu, trop faible, sans mon arme magique. Et en fait, c'est agréable, plus que tout ça.
Alors,
et puis parce que la raquette, c'était pour moi, c'était bagarre, quoi. Ouais, raquette, c'était bagarre tout le temps, compétition, prouver. Et tout d'un coup, plus de tout ça, quoi. Donc, léger. C'était agréable.
Yannick Noah, jeune retraité, ne va pas rester longtemps patron de resto à New York. Balle neuve. Car une nouvelle page de la saga Noah est sur le point de s'écrire. Notre héros va s'inventer une nouvelle vie.
Attention, saga Africa, ambiance de la blues. Saga Africa, attention, les secousses.
Avec le meilleur, ah, comment coûte le meilleur? Comment tu es calé à Elan ou à Zout? Et tu es un shogun, hein? Tu danses un peu bangal, mais c'est bon, mouvement de hanche, ah, mouvement bangal. Attention, le type là est trop dangereux. Viens, ma soeur, fuyo, l'affaire est très grave. Attention, ma soeur, attention.
Yannick Noah pour Yado Cameroun avec les Lions indomptables. Nos chronos dégagent, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. Les défenseurs voient complètement flac. François Omami, Amoti, Eglise, insolent. Deux solos et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas. Un dribble sorti tout dans le laboratoire footballistique des Tudus. La fête est grave, il tire au gol. Il y est.
Saga Africa, attention les secousses.
LRTL, tous vos titres préférés.
De semer, tristesse dans des yeux qui ne peuvent pleurer. J'ai beaucoup de rêves lointains, je me suis tant rebellé. J'ai bu beaucoup de baratin et ça m'a trop saoulé.
Bel RTL, tous vos titres préférés.
Belle RTL, tous vos titres préférés.
Confidentiel, Yannick Noah, avec Anthony Martin.
Nous voilà à présent en 1991. Yannick Noah a 31 ans et il s'apprête à revenir sur le devant de la scène, mais là où on ne l'attend pas, en tant que chanteur. Yannick a toujours aimé la musique, l'ambiance, danser, faire la fête, chanter. Et à chaque fois qu'il va voir ses potes du groupe Téléphone en concert, secrètement, il les envie. Il a des fourmis dans les jambes, il veut monter sur scène comme eux. Ça a l'air d'être chouette leur truc. Un jour, un copain chanteur l'invite à venir assister à une séance d'enregistrement au studio. Yannick est là, il attend, on lui apprend que son ami est malade et qu'il ne viendra pas. Yannick est dans le studio, devant le micro, et il demande au réalisateur s'il peut tenter un truc. Il prend une boîte à rythme, s'amuse, sort des sons, pose sa voix. Il a deux couplets d'une chanson en tête, alors il les chante comme ça sans réfléchir. Deux couplets qu'il a écrits pour s'amuser. Il mélange des expressions françaises et camerounaises, et au passage, il rend hommage à l'équipe nationale de football du Cameroun, les fameux Lions Indomptables dont il égrène les noms. Mais bon, il n'y a pas de refrain, il n'y a rien, juste ces deux couplets qu'il chante en boucle. Yannick Noah raconte que le lendemain, le studio lui téléphone pour lui dire qu'ils ont travaillé et qu'ils ont trouvé un refrain et un titre. Ça s'appelle Saga Africa et ça dit Saga Africa, ambiance de la brousse. Yannick répond, mais c'est quoi ces conneries ? Les conneries en question ont été prises en main par un producteur, Eric Guenassia, qui a de l'expérience. Il a produit des chanteurs comme Gilbert Montagné, Gloria Gaynor ou Stéphanie de Monaco avec Ouragan. L'homme sait fabriquer des tubes. Et c'est comme ça qu'il se retrouve à produire le premier album de Yannick Noah, intitulé Black and White. 11 titres, dont Saga Africa. L'album sort en mai, mais c'est un four. En revanche, le 45 tours Saga Africa connaît un succès fulgurant. Il entre au top 50 en juin, il y reste 22 semaines et atteint la deuxième place. C'est le tube de l'été 1991, vendu à plus de 800 000 exemplaires en quelques semaines. Un autre événement va croiser le succès de Saga Africa. C'est la Coupe Davis. Car la même année, en 1991, Yannick Noah est nommé capitaine de l'équipe de France pour la Coupe Davis. C'est lui qui doit mener Henri Lecomte, Fabrice Santoro, Guy Forget et Arnaud Butch à la victoire. La pression est énorme. La France n'a pas gagné de Coupe Davis depuis 1959. Autant dire que personne ne mise sur la France. Mais c'est sans compter sur la détermination et le mental d'acier de Yannick Noah. Après le champion de tennis, nous découvrons cette année-là un nouveau Yannick Noah, le meneur. Le coach, l'entraîneur, et il est bon, il est très bon. Il dégage et insuffle à ses joueurs une énergie incroyable. C'est le grand frère, celui en qui on a confiance, qui sera toujours de notre côté. Noah se révèle gourou, chaman, porteur d'eau, soigneur. Il enseigne à ses équipiers tout ce qu'il a appris. Il les porte, il les guide. Et le miracle a lieu. Les Français défient tous les pronostics et remportent le saladier. Tous les membres de l'équipe de France bondissent sur le terrain. C'est l'effusion, on pleure, on s'embrasse, on s'enlace, on saute de joie. L'équipe se lance dans un tour d'honneur sous les acclamations des spectateurs. Tous derrière Yannick Noah, les bras au ciel, ils forment une chenille. Et idée de génie, Yannick s'empare d'un micro et se met à chanter Saga Africa devant le public qui est debout et devant des millions de téléspectateurs. Le monde entier voit donc l'équipe de France qui danse et chante sur Saga Africa. À ce moment précis, Yannick Noah retrouve le fameux frisson de la victoire qu'il avait perdue. Il le dira plus tard d'ailleurs à un journaliste. Il dira, t'imagines, ce jour-là, je gagne pour la France et le stade chante Saga Africa. Là, j'ai réussi. Et ce n'est pas fini. Noah, le coach, gagne de nouveau la Coupe Davis en 1996, puis en 2017, sans oublier la Fed Cup, l'équivalent féminin de la Coupe Davis, qu'il remporte en 1997. Nous voilà en 2014. Yannick se sent de plus en plus investi. Il a grandi entre deux cultures, entre deux continents. Il a connu l'humiliation du racisme ordinaire, dans les vestiaires, dans la rue. Et il n'a jamais oublié. Et voilà que la France change. Qu'un certain discours gagne du terrain, attise les peurs, désigne des boucs émissaires. En avril 2002 déjà, quand Jean-Marie Le Pen, leader du Front National, accède au second tour de l'élection présidentielle, Yannick Noah, comme des millions de Français, est abasourdi. « Si Le Pen passe, je quitte la France », déclare-t-il. Noah n'a jamais eu la carte d'un parti, mais il n'a jamais eu peur de dire ce qu'il pense. En 2012, il soutient ouvertement François Hollande à la présidentielle. Il monte même sur scène lors des meetings et chante Saga Africa devant des milliers de militants. Et le 4 mars 2014, trois mois avant la sortie d'un album intitulé « Combats ordinaires », Yannick Noah dévoile en éclaireur un morceau intitulé « Ma colère ».
Ma colère n'est pas un front, elle n'est pas nationale. Ma colère a peur aussi, c'est la peur son ennemi.
Cette chanson va vite faire du bruit. Les paroles dénoncent la montée de l'extrême droite. Le chanteur ne cite pas explicitement le Front National, mais tout y fait référence. Et la réaction est immédiate. Marine Le Pen se moque d'une chanson qui, dit-elle, est indigente à la musique d'ascenseur, quand Florian Philippot, lui, parle de Noah comme du représentant d'un vieux showbiz, d'une caste bourrée de fric qui vit très loin des réalités populaires. Dans les jours qui suivent, Yannick reçoit des insultes, des menaces. Sur les réseaux sociaux, sa page Facebook est bombardée. Tout lui revient en boomerang, en pleine figure. On lui reproche sa fortune, ses maisons, son exil fiscal en Suisse. Mais Noah ne recule pas et il décide de prendre la parole sur RTL, au moment de la sortie de la chanson « Ma colère ».
Moi, j'aime pas le Front National, voilà, quoi, tout simplement. Je suis un citoyen qui vote, qui a des opinions, et qui garde les mêmes opinions, qui change pas de côté. Donc, quand on parle de division, quand on en parle d'immigration, j'ai l'impression qu'on a envie de me couper en deux. Je suis jamais du bon côté. Or, le bon côté, c'est, voilà, c'est le blanc-rouge, c'est d'être français, quoi. Je suis français, je suis content, je suis fier d'être français, j'ai fait chanter la Marseillaise. Voilà, je l'ai chanté, mais j'étais très fier, je suis toujours très fier de la chanter, quoi. Mais il y a un côté noir et blanc, et le noir et blanc, bah, il est français, il est entre les deux, café au lait, métis, tu appelles ça comme tu veux, mulâtre, mais français.
Jusqu'ici, Yannick Noah possédait juste ce qu'il fallait de rébellion dans le cœur pour gentiment agiter les idées, sans pour autant agacer. Mais sa chanson « Ma colère » est comme le coup de gueule de trop. Cette fois, ça ne passe pas. Ses prises de parole énervent pas mal de monde. Le Noah engagé et enragé se fait plus discret médiatiquement. Mais ses mots, ce qu'il a pu dire, restent les siens. Et il les répète encore aujourd'hui. Il ne change pas. Yannick Noah reste fidèle à ses convictions. Et dans ce monde où les discours se durcissent, où les divisions se creusent, il croit toujours à ses rêves, mais moins souvent son poing se lève. L'âge aidant, il est même devenu un sage. Nous sommes en 2017, au Cameroun. Le début d'année est bien sombre pour le clan Noah. Zacharie, le patriarche, s'éteint le 8 janvier des suites d'une longue maladie à l'âge de 79 ans. Yannick décide alors de revenir sur la terre de ses ancêtres dans le village des Noah, à Etoudi, un des quartiers de la capitale Yaoundé. Avec la mort de Zacharie, c'est aussi le chef du village des Toudis qui disparaît. Avant lui, celui qui était le chef, c'était le grand-père de Yannick, Simon Noah Biquier, le fameux Papa Tara. En 2017, Yannick Noah hérite donc du titre de chef du village des Toudis. Il est intronisé face au cercueil de son père, en présence de ses enfants, au cours d'une cérémonie menée au rythme des percussions, autour du feu. Et pour une fois, l'expression « retour aux sources » n'est pas galvaudée, car Yannick a décidé de retourner vivre au Cameroun depuis le début des années 2020. Une nouvelle vie pour celui qui a toujours été un chef de famille. 6 enfants nés de 4 femmes différentes. Dans les années 80, à New York avec Cecilia, il devient le père de Joachim et Yelena, on l'a évoqué. De son autre union avec la top modèle Heather Stewart-White, naissent 2 filles, Elijah et Janaye. Et Yannick rencontre Isabelle Camus, la fille du producteur de Johnny Hallyday, Jean-Claude Camus. Et ils ont un fils, Joaluca, qui naît en 2004. Puis Yannick est devenu papa une 6e fois en octobre 2024, à l'âge de 64 ans, en accueillant avec sa nouvelle compagne Malika une petite Kilani, sa 4e fille, qu'on a pu apercevoir d'ailleurs dans ses bras dans les tribunes de Roland-Garros en 2025. Yannick Noah est donc aussi depuis quelques années un chef de village au Cameroun, où il s'est installé. Il en parlait sur RTL en 2022.
Et c'est quoi être chef de village, concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne suis pas chef de village, je suis chef de tribu.
Chef de tribu.
C'est plus qu'un village. C'est-à-dire que de manière, la tradition, en fait, le chef, c'était celui qui s'occupait, en fait, qui était responsable de tous ces sujets. Bien sûr, avec le temps, cet endroit où j'ai grandi, mais maintenant est entouré de la ville. Donc la plupart sont aussi éparpillés ou dans la ville, dans le pays, voire ailleurs. Mais il y en a qui restent, surtout les anciens. Mon rôle, c'est de les écouter, de les aider dans la mesure du possible. C'est très varié. Il y en a qui ont pas de fringues, il y en a qui ont pas de médicaments, il y en a qui ont besoin de conseils, il y en a qui ont, voilà, donc c'est, voilà, la gratuité pour certains à l'école, pour les petits, les aider à, voilà, faire du sport, et puis encore une fois, pour les plus âgés, les aider, surtout pour les problèmes de santé.
Le rôle de chef de tribu est symbolique, mais important. Yannick Noah n'a pas de poste officiel, il n'a pas de responsabilité administrative ou politique, mais il est l'esprit bienveillant qui assure l'harmonie du groupe. Il veille sur les personnes âgées, sur les enfants, il fait attention à ce que l'école fonctionne, il finance le village Noah, un hôtel avec bungalow, piscine, restaurant et terrain de tennis. Parfois, il règle même des litiges de voisinage. C'est désormais là-bas que vous avez le plus de chances de croiser Yannick Noah. Après toutes ces années passées à parcourir le monde, à nous faire vibrer, rêver et danser, il a posé son sac. Il est de retour sur la terre de ses ancêtres, à Etoudi, et il le dit à qui veut l'entendre, il n'en bougera plus. Merci à tous d'avoir suivi cette émission consacrée à notre héros aux mille vies, Yannick Noah. Un épisode que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur notre site, sur l'appli RTL et sur toutes vos plateformes favorites. Merci à Eric Lange, Thomas Pierre, Coralie Lutinier et Dany Matouk qui m'ont aidé à, une fois de plus, à préparer ce confidentiel. Je vous retrouve demain matin à 9h15 avec toute l'équipe de Laissez-vous tenter. Place à la musique maintenant sur RTL.